7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, touche pas à mon internet. Le réseau internet est coupé depuis ce matin à Libreville au Gabon, en tout cas à l'heure où je vous parle. Les Congolais de RDCE sont privés d'internet depuis le 31 décembre dernier, en pleine attente des résultats des élections qui ont d'ailleurs été reportées, ces annonces de résultats. Même si seulement 4% des 90 millions de Congolais de RDC ont accès à internet en temps normal, eh bien si vous faites partie de ceux qui regardent désormais leur smartphone avec perplexité ou désespoir, appelez-nous pour nous dire comment vous vivez cette déconnexion forcée au quotidien. Qu'est-ce que ça implique aussi dans votre travail, dans les échanges économiques, dans vos universités, dans votre vie de famille? Quelles sont vos attentes? Et ailleurs sur le continent, quel progrès ces dernières années? L'accès à Internet est reconnu depuis juillet 2016 comme un droit fondamental par les Nations Unies. On va en parler, des prix, parce que l'Internet en Afrique est le plus cher de la planète, des taxes aussi imposées par les États, de la qualité des connexions et des menaces de coupure. Avec vous, Julie Owono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ONG Internet sans frontières. Et les voisins et les voisines, bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je vous redonne le numéro de téléphone. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp pour ceux qui ont une connexion internet. On sera également en ligne avec Ariel Kitio, une autre personnalité dans le monde de l'internet, enseignante d'informatique à l'université de Yaoundé 1, connue pour ses initiatives en faveur des femmes et des jeunes, notamment dans le codage informatique. On découvrira aussi en reportage la place Wi-Fi qui a débaptisé la place de la Poste à Niamey au Niger, enfin débaptisée par les habitants et les usagers d'internet, où l'internet est gratuit. Énorme succès, les jeunes accourent de toute la ville à la nuit tombée. Et en fin d'émission, l'Afrique qui gagne, portrait de la libérienne Marjane Baker qui a lancé un programme pour encourager les jeunes à choisir les filières scientifiques. Allez, je vous lis quelques réactions sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont une connexion internet. Roussel à Libreville est entrepreneur dans la formation professionnelle. Il s'est réveillé ce matin sans internet. On a très rarement ce genre de coupure, c'est ce qu'il a dit au téléphone lui. Et quand ça arrive, ça nous pénalise parce que on travaille avec des étrangers. Daouda a réagi sur internet. J'ai vécu la déconnexion forcée lors d'une de mes missions à Lomé au Togo. 72 heures sans internet, ni appel téléphonique par décision du gouvernement lors des manifestations de l'opposition togolaise. Je me suis sentie vulnérable car internet, pour moi, c'est essentiel pour communiquer. Nérise à Bangui, en République centrafricaine, nous dit que les coupures sont incessantes chez nous, dit Nérise. Et bien sûr, elles perturbent l'économie, vous confirmez, Julie Reno en RCA.
C'est absolument, vrai qu'on en parle jamais, moins. Mais c'est un pays qui est très touché aussi.
Mouloukou, auditeur au Mali. Au Mali, on a l'internet le plus cher d'Afrique. Je me ruine. Un tiers de mon argent est consacré à internet. Et l'internet est plus lent que les grands-mères de mon village. Voilà, un trait d'humour, ça fait pas de mal. Mais ce sont de vraies réalités que vous vivez. Alors bien sûr, il y a les coupures politiques, il y a les coupures technologiques, techniques. On va essayer de démêler tout cela et d'essayer de comprendre aussi pourquoi l'internet est si lent dans certaines parties du continent et si coûteux également. On vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71. Et bien évidemment, les voisins congolais de RDC aujourd'hui, vous avez la priorité.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Bibi est en ligne avec nous de Kinshasa. Bonjour Bibi.
Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins.
Bibi, vous avez 22 ans, vous avez dit au Standard que sans internet, vous êtes angoissée.
Oui, parce que vu que je suis habituée avec la connexion, du coup, la coupure, ça met un peu mal à l'aise par rapport aussi à mon salon de coiffure. Certaines de mes coiffures viennent de l'internet. Par exemple, j'ai des clientes qui viennent spécialement parce qu'elles ont vu une coiffure que j'ai postée sur mon Instagram. Donc, elles viennent pour que je puisse leur faire la même coiffure.
Bah oui. Et donc,
du coup, mais bon, la clientèle n'a pas baissé, mais c'est quand même plus bizarre. Parce que les clientes, elles viennent, elles ne savent pas quoi faire, au fait. Elles se disent, bon, il y a certaines coiffures que je prenais sur Internet, mais là, c'est plus possible. Donc, c'est un peu compliqué. Et même pour joindre la famille, ça fait une semaine, c'est pas facile. Hein. Mmh. Pour appeler déjà les unités, ça coûte cher. C'est pas facile.
C'est ça, vous avez redécouvert la cherté du téléphone via les réseaux de téléphonie mobile classiques.
Ouais, c'est clair. Et là, maintenant, je trouve que mon téléphone, ça sert plus grand-chose.
Vous avez un smartphone et vous le contemplez avec désespoir.
Ouais, genre la charge, ça fait maintenant 3 jours.
Ah oui, ça fait
alors que à l'époque,
3 jours que vous n'avez pas rechargé.
Alors que quand j'ai la connexion, mon téléphone, je le charge tous les heures. Donc plus une heure passe, je charge. Une heure passe parce que je l'ai constamment entre les mains. Et maintenant, je peux le poser sur la table et tout. Ça ne me dit plus grand-chose. Je regarde ça comme ça et je me dis, ça ne sert plus à rien, quoi.
Oui. On ne va pas faire l'apologie de la déconnexion forcée vu la situation en RDC. Mais en tout cas, voilà, c'était votre point de vue et ce que vous vivez, Bibi. Merci beaucoup de nous avoir appelé également. Madeline nous appelle de Kinshasa, c'est bien ça qu'on a en ligne. 27 ans, vous venez de finir vos études de médecine, Madeline.
Allô, bonsoir.
Oui, bonjour Madeline. Vous vous définissez comme une internet dépendante.
Oui, vraiment très dépendante. Tout ce que je le fais avec Internet.
Et alors, comment vous vivez depuis le 31 décembre, Madeline ?
Très mal. J'ai vraiment l'impression que je ne peux rien faire du tout. Je m'ennuie parce que je n'ai pas encore commencé à travailler. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Comme l'a dit déjà Bibi, contacter la famille et tout, on le faisait plus facilement avec les réseaux sociaux parce que les forfaits Internet sont plus accessibles que les forfaits appels. Mmh. Oui, donc.
Comment vous faites pour les transferts d'argent ? Vous utilisez les services de mobile banking ?
Chez nous, ici, on appelle ça. Moi, j'utilise le forfait M-Pesa avec Vodacom.
C'est ça, c'est du mobile banking, du transfert d'argent via Internet. Comment vous faites maintenant, alors ?
Bon, le service fonctionne toujours. Parce que c'est grâce à ce service-là que j'arrive à activer des forfaits pour les appels internationaux et locaux.
Donc, vous arrivez à faire du transfert d'argent. Oui, Julie Ono, peut-être
alors,
une précision
c'est,
là-dessus.
C'est pas très surprenant parce que dans le cas de la RDC, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des petits pics d'activité Internet, mais c'est parce que les connexions ont été désactivées pour tout le monde pratiquement, sauf pour certaines entreprises stratégiques. Donc évidemment, Vodacom, ils ont les moyens de rendre leur réseau résistant à ça et bien d'autres entreprises. Donc oui, par rapport à d'autres années où tout le monde était dans le noir, cette fois-ci, quand même, on a essayé d'épargner les services, les grosses entreprises.
Tout le monde était dans le noir. Vous faites bien de comparer l'Internet à l'électricité. Alors, en revanche, à Kinshasa, également, Chantal nous a envoyé ce message. Gros problème pour les transferts d'argent. Avant, on pouvait le faire sur le net. Aujourd'hui, obligation de se déplacer dans une banque. C'est une immense perte de temps. Il faut rappeler quand même que sur le continent africain, il y a 122 millions d'usagers du mobile banking. Et que donc, effectivement, quand on coupe le robinet du mobile banking, même si, semble-t-il, d'après le témoignage de Madeline, certains peuvent continuer de l'utiliser. Merci beaucoup Madeline de nous avoir appelé. Omer est également en ligne avec nous. Omer, 25 ans, vous avez une chaîne YouTube. Omer.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu. Alors comment vous vivez sans internet depuis le 31 décembre ?
Et moi je vis et ça c'est comme si on m'avait enlevé une partie. Et la moitié de moi, parce que je ne vis presque plus, je peux le dire ainsi, parce que tout de moi, je le fais sur Internet. Avec ma chaîne YouTube, et j'ai la facilité un peu de gagner d'autres choses et d'avoir tant de contacts, je le fais, c'est ça ma vie, je le vis en ça. Et quand on nous avait coupé cela, je n'avais pas réalisé après 2 jours, plus d'une semaine, et ce que je suis en train de vivre ici, ce n'est plus moi, vraiment, ce n'est plus moi. Parce qu'avec l'Internet, ça me facilite et la tâche. On a des associés, on a aussi des relations avec des gens qui ont presque sur l'Internet. Et je ne vis presque plus. Et ça, je le répète, oui, l'Internet, ça m'a fait vraiment énormément de mal. Et je suis là, en train de me battre. On fait un peu de recours pour chercher un peu, de voir comment ça peut marcher, découvrir dans nos pays voisins, de voir, d'avoir leur carte SIM, si on peut l'utiliser. Mais ça
vous achetez des cartes SIM qui ont traversé le fleuve Congo via le Congo-Brazza, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. On essaie un peu de se débrouiller de cette manière-là, de chercher toujours à être disponible sur l'Internet. C'est ça, vraiment.
Merci de nous avoir appelés. On retient votre témoignage. Vous n'êtes plus vous-même. C'est comme si on vous avait enlevé une partie de moi. C'est comme une résonance aussi à la reconnaissance d'un droit fondamental Internet depuis juillet 2016 par les Nations Unies.
Ah mais là, les témoignages qu'on a entendus effectivement sont la preuve vivante qu'aujourd'hui, ne pas avoir accès à Internet, c'est priver les gens d'un droit, d'un besoin bien sûr, mais surtout d'un droit. Et ça montre aussi, c'est intéressant sociologiquement, parce que la plupart des personnes qu'on a écoutées, ce sont plutôt des jeunes personnes, ce qu'on appelle des millennials aujourd'hui. Et les millennials sont ces populations-là qui ont grandi avec Internet.
Et qui sont majoritaires sur le continent.
Et qui sont majoritaires sur le continent africain. Donc ça montre que ce sera de plus en plus compliqué pour les gouvernements de couper Internet sans que cela ne crée un émoi déjà en interne.
Et puis, il y a l'aspect économique aussi. Elle nous le disait pour son salon de coiffure, cette internaute qui nous appelait, cette voisine qui même... Pour l'instant, la clientèle n'a pas fui, mais compliqué d'exercer son métier. Mais par exemple, pour un auditeur qui nous a contacté de Kinshasa, 27 ans, il a créé son entreprise de location de véhicules. Et il nous dit « La vie sans Internet change tout. Jamais nos batteries n'ont tenu si longtemps, certes, mais plus rien ne marche. C'est la vie au ralenti. On est bloqué sur tout. C'est un manque à gagner tous les jours. Mais 15 salariés ne peuvent pas répondre aux clients. Si dans une semaine, il n'y a toujours pas d'Internet, je fermerai l'entreprise pour éviter la faillite. » Et des petites entreprises comme ça, il y en a probablement des milliers.
Il y en a des milliers et ça correspond totalement à ce qu'on observe depuis, nous déjà depuis 2 ans. C'est-à-dire que quand on coupe Internet, dans n'importe quel pays aujourd'hui, ce sont des millions d'euros qui sont perdus par jour, parfois par semaine. Donc, et là dernièrement sur le cas de la RDC, il y a des ONG qui essayent de faire le calcul depuis quelques temps et on est déjà, je ne sais pas les chiffres exacts en tête, mais on est à plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes économiques. Donc c'est vraiment, enfin, je ne sais pas comment on pourrait insister encore plus, mais ça montre vraiment que c'est absolument contre-productif, ça ne règle absolument aucun problème, ne serait-ce même que le problème de la désinformation. Au contraire, vous avez entendu les témoignages, je ne suis pas rassurée.
Les raisons officielles de l'État, du gouvernement, c'était d'éviter un soulèvement populaire à l'heure de la compilation des résultats électoraux et de couper en fait le robinet des fake news.
Mais personne n'est rassuré. Là, vous avez entendu les auditeurs, ils disent tous je suis pas bien, je peux pas communiquer avec ma famille, avec le reste du pays. Forcément, dans ces conditions-là, la sécurité, elle n'est pas certaine.
Et paradoxe, ça perturbe aussi le comptage des bulletins de vote par la commission électorale. Mais enfin, bon, ça c'est un autre problème. On ne va pas parler politique. Néanmoins, il y a des résultats provisoires qui devaient être annoncés hier. Dimanche, la commission électorale a annoncé que le résultat du vote, et que l'annonce des résultats était reportée. Ça veut dire qu'on est parti encore pour plusieurs jours sans Internet.
Absolument. Et d'ailleurs, j'en profite d'être sur les ondes de RFI pour lancer un appel très urgent aux autorités congolaises pour leur dire de repenser absolument cette mesure qui est totalement disproportionnée et qui, au contraire, ne fait qu'aggraver et ajouter d'autres problèmes. Parce qu'une fois qu'on va rétablir Internet, il va falloir rembourser à ces gens-là. Comment on fait? Qui va payer? C'est ça la question.
Vous le faites au nom de l'ONG Internet
sans frontières. On le fait au nom de l'ONG Internet sans
frontières. Les Nations Unies ont lancé un appel, plusieurs pays de la communauté internationale.
Absolument. Et on rejoint aussi des ONG congolaises, notamment un réseau de blogueurs qui s'appelle Abari RDC, qui a également lancé un appel aux autorités en faveur du rétablissement d'Internet.
Est-ce que les coupures politiques d'Internet sur le continent africain se sont multipliées ces dernières années ou pas ?
Ah oui, là, le très bon exemple. On parlait de la RDC encore aujourd'hui. Et ce matin, on parle du Gabon. La semaine avant, deux semaines avant Noël, c'était le Soudan. Quelques temps avant, c'était... Enfin, il y a eu le Mali en 2018. Enfin, à chaque fois, maintenant...
Le Cameroun, il y a un an.
Et le Cameroun, il y a un an, mais encore sporadiquement dans les zones, en tout cas, très affectées par le conflit anglophone. Oui, malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a corrélation directe entre... troubles politiques, en tout cas ce qui est considéré comme tel par certaines autorités, ou élections, et coupure Internet. Et c'est assez symptomatique d'un renforcement de la répression. Et nous, ça fait des années qu'on le signale, mais malheureusement, ça n'a pas été beaucoup pris en compte. Ce n'est que dernièrement, on était très heureux de voir que l'UE, l'Union africaine et bien d'autres organes internationaux ont appelé les autorités à rétablir Internet. Je pense que c'est important que ces autorités-là aussi se mettent sur ce créneau créneau-là, entre guillemets, et dès les premières signes, lance l'alerte et demande aux autorités de rétablir, parce que derrière, ce sont d'autres droits humains et d'autres conséquences beaucoup plus graves, qu'elles soient politiques, mais aussi économiques et sociales, comme on l'a vu ce matin dans les témoignages.
Alors, vous nous appelez bien sûr au 33 1 84 22 71 71. Touche pas à mon Internet pour nous parler des répercussions de vos difficultés d'accès à Internet. Quelles sont les répercussions dans votre vie quotidienne, où que vous soyez sur le continent? Nous sommes en ligne avec Ariel Kitio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante d'informatique à l'université de Yaoundé 1 et vous êtes connue pour vos initiatives en faveur des femmes et des jeunes, notamment pour le codage informatique. J'aimerais qu'on parle également avec vous et Julie Owono de la connexion à l'heure actuelle. Ces dernières années, est-ce que la connexion s'est améliorée? La couverture du continent s'est améliorée?
Bien évidemment, la connexion et la connectivité Internet est très améliorée, notamment au Cameroun, où on est actuellement à 35,2% de taux de pénétration d'Internet, soit une progression de 2,9% comparé à l'année dernière. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que ça reste discriminatoire parce que ces 35% sont essentiellement concentrés dans les zones urbaines. La couverture n'est pas très. Elle n'est pas parfaite dans les zones rurales. D'ailleurs, l'une des stratégies des opérateurs de télécommunications, c'est justement de commencer par les zones urbaines, l'agglomération, de business, d'école et tout. Et puis, ils vont progressivement, mais très lentement, vers les zones reculées. Donc, au Cameroun, par exemple, on a qu'un seul opérateur qui a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qui a commencé par les zones rurales, les zones enclavées, avant de migrer vers les zones urbaines. Donc, effectivement, il y a une amélioration, mais ça reste avec beaucoup de disparités. D'ailleurs, il y a quelques temps, le Cameroun a officialisé la couverture par la fibre optique, qui est censée améliorer la connectivité et la qualité même de la connexion Internet accessible par le Cameroun.
Alors, la 3G officiellement est disponible dans la quasi-totalité des marchés du continent, Julie Owono?
Théoriquement, c'est l'annonce qui est faite par beaucoup d'opérateurs. Mais ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que parfois, c'est un effet d'annonce ou de la publicité, peut-être parfois un peu mensongère, il faut le dire. Les dernières études, les tests de trafic du réseau dans beaucoup de pays montrent qu'il y a vraiment un décalage entre ce qui est annoncé et la réalité. Par exemple, il y a ces données de la Ligue internationale en faveur de la bande passante rapide. C'est une association anglo-saxonne et qui a comparé en fait les vitesses pour télécharger un film de 7 gigas dans plusieurs pays d'Afrique. Par exemple, au Gabon, pour télécharger un film de 7 gigas, il faudrait 41 heures. Donc, presque 41 heures. Dans un autre pays, je crois que c'était la RDC d'ailleurs, dont on parlait, il faudrait 31 heures. Au Malawi, c'était un peu moins, c'était 18 heures. Donc, avec une connexion 3G, normalement, on n'a pas à avoir ce type de problème. Mais quand on regarde, dans beaucoup de ces pays-là, les opérateurs annoncent effectivement avoir mis en place la 3G. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, c'est peut-être un problème de gestion du spectre, gestion des ressources techniques en elles-mêmes. Ça peut être aussi que les régulateurs ne font pas leur travail, parce que l'un des rôles des régulateurs dans ces différents pays, c'est de s'assurer que les licences pour lesquelles ils ont octroyé aux opérateurs, et notamment des licences d'exploitation de la 3G, de la 4G, sont effectivement exploitées à cette fin-là et desservent ce service-là aux consommateurs. Or, on se rend compte qu'il y a très peu de recherches et même de condamnations de la part de ces régulateurs-là sur le continent lorsque le service ne correspond pas.
Le service rendu ne correspond pas à ce qui est annoncé et à ce qui est payé, surtout.
Et à ce qui est payé par les consommateurs.
En moyenne, le taux de pénétration d'Internet maintenant sur le continent africain, on tourne à pas loin de 25%, c'est ça?
C'est ça.
Et avec de très fortes inégalités, ne serait-ce qu'effectivement en termes de débit, en termes de connexion. Vous parliez de la vitesse de téléchargement. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un voisin qui a posté un message WhatsApp sur notre WhatsApp, un voisin de Ouagadougou au Burkina Faso.
Bonjour les voisins, je suis Ouedraogo Moumouni, étudiant à l'université de Ouagadougou, précisément à Ouagadougou ici. Vraiment la connexion Internet au Burkina est véritablement un fiasco pour nous. Malgré l'installation de la 3G dans presque les réseaux de communication, Telmob, Telcel et Orange, malgré tous ces réseaux de télécommunications, souvent il faut attendre certaines heures, c'est-à-dire les heures à partir de 24h ou 1h du matin pour pouvoir mieux se connecter. Malgré ces heures, bon, presque beaucoup de gens qui ont pensé à ces heures également, qui naviguent, mais malgré tout ça, bon, la connexion n'est pas aussi fluide. Quand on regarde le coût relatif à cette connexion, on voit que, en tout cas, il y a une chèreté du coût de la connexion.
Ariel Kitio, alors 3G annoncé et pas le débit qui correspond, c'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. Mais il y a un transfert, c'est le prix, c'est pour pouvoir avoir une connexion débit acceptable ou bien plus ou moins stable. Il faut débourser environ un sixième du SMIC camerounais, ce qui est assez cher. Mmh. Donc, il y a des forfaits qui permettent d'avoir une connectivité qui est plus ou moins bonne, ouais. Mais il faut payer le prix pour y avoir accès, en fait.
Ouais, et alors là, en l'occurrence, notre voisin est burkinabé. Il parlait surtout là de la lenteur, c'est-à-dire qu'en fait, ce que reprochent les internautes et les usagers, c'est le prix pour ce qu'on nous propose, en fait, pour la qualité de l'Internet. Il y a également, vous évoquiez, Julio Wono et Ariel Kitio, les inégalités territoriales. Vous évoquiez certains opérateurs qui avaient choisi de mettre l'accent d'abord sur les zones les plus reculées, donc les plus en retard pour la connexion, à savoir les zones rurales. Je vous propose d'écouter... sur le continent, le message WhatsApp d'Ousmane. Il est à Gao, dans le nord du Mali.
Bonjour aux voisins et aux voisines. Je suis à Gao, en République du Mali. Les deux fournisseurs d'Internet ici sont le réseau Orange Mali et puis Malitel. Ici, nous vivons un véritable calvaire par rapport à l'accès à Internet. On vous envoie des emails, vous ne pouvez jamais ouvrir pour les lire. Vous ne pouvez pas échanger avec des amis. L'accès à Internet est un véritable calvaire.
Ousmane a renvoyé ensuite un message écrit où il précise « À Bamako, ils en sont à la 4G. Nous, à Gao, on n'a même pas la 1G. Orange et Malitel nous ignorent. »
Mais c'est malheureusement symptomatique, encore une fois, de ce qui se passe. Une étude qui est parue l'année dernière, menée par la Fondation Web, la Web Foundation, donc du fondateur du Web que nous utilisons, montrait que... Il y a ce qu'on appelle des services d'accès universel, des fonds, pardon, de services d'accès universel. Dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, il y a des lois sur les communications dont les premiers articles consacrent l'accès universel, c'est-à-dire que sur tout le territoire, normalement, tout le monde devrait avoir accès à Internet. Et pour cela, ils font financer dans un fonds participatif, donc auprès des opérateurs, un certain nombre à travers une taxation du chiffre d'affaires, etc., justement le financement de ces infrastructures qui permettraient d'emmener Internet dans les zones les plus reculées. Or, cette étude en 2018 montrait qu'il y avait 400 millions de dollars qui dormaient dans les caisses de ces fonds d'accès universel et qui n'étaient pas utilisés pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire construire les dites infrastructures. Donc, on voit que au-delà
de l'argent, entre autres des bailleurs de fonds d'ailleurs,
et
aussi,
de l'argent aussi des bailleurs de fonds qui n'est pas utilisé de manière optimale. Donc ça montre que c'est aussi une volonté politique, même si on va pas en parler dans le détail, mais le fait que de l'argent existe et ne soit pas utilisé
pour améliorer les réseaux, la connectivité.
Voilà.
La technologie.
Exactement.
Alors, je voudrais aussi vous lire le message de Mohamed. Non, est-ce qu'on a Mohamed au téléphone? Non, on n'a pas Mohamed au téléphone de Madagascar. Alors, je voudrais vous lire, évidemment, les internautes, ou les ex-internautes en RDC. Les voisins, en tout cas, vous continuez de poster des messages. Emmanuel de Kinshasa nous dit... Sans Internet, nous sommes privés d'un droit fondamental. Je suis des cours d'informatique en ligne. Je ne peux plus rien faire. C'est un cauchemar. Je ne sais plus vivre sans Internet. Voilà, c'est vraiment ce type de phrase qu'on lit beaucoup maintenant quand vous nous appelez et que vous nous livrez votre témoignage en RDC. Je voudrais qu'on essaye de mieux comprendre. Aujourd'hui, les prix, vous êtes nombreux à poster des messages concernant les prix trop élevés, dont Don à Niamey nous dit « Le gouvernement à taxer les réseaux. Conséquence, les forfaits Internet sont devenus chers, la connexion Internet est lente. » Mohamed à Madagascar nous dit les opérateurs qui manquent, ce ne sont pas les opérateurs qui manquent, mais la taxation des prix pour les forfaits Internet qui augmente chaque jour pour avoir une connexion illimitée chez soi. Oui, la Yaoundé nous dit que le réseau Internet est très mauvais, hors de prix, on se fait voler nos unités. Et ce qui m'étonne, c'est que l'ART, l'Agence de régulation des télécoms, est censée contrôler tous ces manquements et elle est indifférente. Voilà, ça c'est le point de vue de Will. Gilbert à Garoua, dans le nord du Cameroun, nous dit que le prix de la connexion Internet est exorbitant. Du coup, c'est compliqué d'avoir accès aux informations. Au Cameroun, la censure fait partie de notre quotidien, tout comme les coupures Internet. Alors aujourd'hui, comment se fait-il que le prix soit si élevé par rapport à la mauvaise qualité dont témoignent les usagers d'Internet. Ariel Kitio, est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus?
Comme je vous disais tantôt, pour avoir une connexion plus ou moins stable dans la ville de Yaoundé ou bien même de Douala, une connexion qui vous permet de télécharger vos vidéos, télécharger vos cours de manière assez fluide, il faut débourser en moyenne 10 000 francs CFA, sinon plus, ce qui représente, comme je vous disais tantôt...
Ce qui est à peu près équivalent à 15 euros. Hein.
Voilà, et qui représente un bien du SMIC au Cameroun. Donc, ce qui est clairement, un objet qui n'est pas accessible à tout le monde, en fait.
Est-ce que...
Mais à côté de cela, il y a des forfaits plus ou moins journaliers qui permettent aux personnes de se connecter sur WhatsApp, sur Facebook, et puis... Voilà.
Alors, le prix médian d'un giga de données mobiles sur le continent africain, c'est 6 euros hein, en Afrique subsaharienne, presque moitié prix en Union, dans les pays de l'Union européenne, 3,50 euros. Mm. Donc, on voit bien que la différence est énorme. Ça peut atteindre 30 euros pour un giga en Guinée équatoriale, mais ça redescend à moins de 2 euros le giga au Rwanda. Aujourd'hui, comment expliquer ces prix? Est-ce qu'il y a finalement une forme de malgouvernance ou une volonté politique de faire en sorte que l'Internet soit de plus en plus cher et donc réservé à une élite?
Peut-être que les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'abord d'ordre technique en lui-même. Et ensuite, évidemment, qui est lié à la volonté politique. Pourquoi ? Parce que pour faire diminuer au maximum les coûts d'accès à Internet, il existe des infrastructures qui coûtent pratiquement rien aujourd'hui. Par exemple, les points d'interconnexion, des points IXP qui permettent en fait aux opérateurs, ce sont des points d'accès, enfin des points de, qui concentrent en fait toutes les données qui transitent dans le pays et qui permettent aux opérateurs de mutualiser les coûts de transfert de l'information. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur le continent africain. Aujourd'hui, pour qu'un data, une data, donc une donnée d'information, quitte un point à un autre à l'intérieur d'un même pays, dans un pays africain, l'information est obligée d'aller aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. Évidemment, ça coûte, c'est ridicule, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Alors que si vous aviez des infrastructures en interne qui permettraient de faire transiter ces informations-là et mutualiser surtout, et ça permettrait même de faire diminuer le coût des appels, puisque l'interconnexion des réseaux permet en sorte, mutualise le travail des opérateurs et permet même ensuite qu'ils négocient entre eux des tarifs beaucoup plus abordables, même au niveau des SMS ou des appels. Donc c'est d'abord un problème de technique, d'infrastructure, mais c'est aussi un problème politique. Pourquoi ? Parce que ces IXP, la politique de construction, de mise en place d'IXP est beaucoup poussée par des organismes internationaux, notamment la Banque mondiale, qui évidemment s'adresse à des gouvernements, puisque c'est des territoires souverains qui doivent décider de comment sont gérées et gérer l'infrastructure télécommunicationnelle dans leur pays. Or, on voit que si ces infrastructures ne sont toujours pas présentes en quantité satisfaisante, suffisante, au regard de la demande qui est croissante sur le continent africain, ça pointe encore une fois malheureusement le fait que, eh bien, ça arrange peut-être certains, ça arrange certainement certains publics que ça coûte très cher et que l'on doit taxer beaucoup plus, des taxes qui en plus ne sont pas nécessairement réutilisées ensuite pour construire des infrastructures en interne, comme je disais tout à l'heure avec les fonds d'accès universels.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a des raisons techniques aussi pour expliquer le faible accès à Internet des pays dits enclavés, qui n'ont pas accès à la mer et donc à l'arrivée des câbles qui arrivent par le sous-marin.
C'est beaucoup plus difficile, effectivement. Plus
Mali,
vous êtes
Burkina,
enclavé,
Niger.
On parlait de la RCA tout à l'heure. La RCA dépend totalement de ses voisins, et notamment du Cameroun. Mais pour justement combler ce déficit, un organisme, encore une fois, comme la Banque mondiale, a lancé, pour le cas de l'Afrique centrale, le projet Central Africa Backbone, qui devait permettre à des pays enclavés comme le Tchad ou comme la RCA de se connecter à une espèce de câble qui emmènerait la connectivité des côtes camerounaises vers l'intérieur des terres. Or, la construction même de ce projet-là a posé un certain nombre de problèmes au niveau de l'avancée des travaux. Il a été lancé, mais maintenant, c'est le problème de la gestion de ce Central Africa Backbone. Et ça pose ensuite, et on revient sur la question de la volonté politique, ça pose ensuite ensuite la question de la gouvernance, même des infrastructures, une fois qu'elles sont en place, c'est-à-dire comment on détermine les prix, qui les détermine, qui s'assure que les prix ne sont pas exorbitants au regard de ce que ça a vraiment, enfin de ce que l'infrastructure a réellement coûté. Enfin, il y a un certain nombre d'aspects de gouvernance qui nécessitent énormément de transparence, ce qui fait malheureusement beaucoup défaut aujourd'hui et qui permet les abus et les disparités que l'on voit.
Ariel Kitio, est-ce que selon vous les taxes aujourd'hui, oui, vous souhaitez ajouter quelque chose là-dessus?
Voilà, je voulais dire justement qu'au Cameroun, d'après les statistiques de l'Agence de régulation de la télécommunication, on a observé qu'il y a 62% moins d'investissement de la part des opérateurs de télécommunications. Donc, ils investissent beaucoup moins dans leurs infrastructures. Et j'aimerais dire que ce n'est pas forcément une fatalité parce qu'il y a des moyens de contournement. Justement, il y a des technologies comme la connectivité augmentée qui permettra de faciliter l'accès à Internet sans Internet. C'est-à-dire en utilisant les réseaux GSM, ça permettra aux personnes en zone rurale, dans les zones enclavées, d'avoir accès aux ressources qui sont sur Internet sans forcément passer par Internet.
C'est ça. Alors justement, on a un message de Christophe Anjamena. Vous allez me dire si ça relève du même processus technologique. Il faudra, je pense, réexpliquer. Hein, utiliser Internet sans passer par Internet, je pense que quand même pour nos auditeurs, c'est compliqué à comprendre. Les réseaux sociaux, nous dit Christophe, sont coupés sans cause depuis bientôt un an. Anjamena, ce qui nous appelle à dévier les réseaux mobiles pour passer par les VPN qui nous coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas compatibles d'ailleurs avec tous les téléphones. La qualité des réseaux également reste à revoir. Même dans la capitale, les gens éprouvent des difficultés pour se connecter. C'est vraiment déplorable. Cet aspect du VPN, Ariel Kitio, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle est cette technologie et pourquoi elle est si coûteuse?
En fait, la solution que je proposais, ce n'était pas exactement du VPN, c'était une solution GSM, c'est-à-dire les lignes téléphoniques normales, dont le principe est tout bête, c'est-à-dire que les informations qui viennent d'Internet sont découpées en petits messages qui sont transférés vers les téléphones de l'utilisateur. Donc, typiquement, il pourrait donc avoir accès au réseau d'Internet avec un téléphone qui n'est même pas Android, un téléphone qui n'est même pas smart, en fait.
C'est ça, via de la téléphonie mobile basique. Concernant le VPN, voilà. Julie Owono.
Oui, ce qui explique le coût parfois. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que le VPN va vous donner une adresse IP qui n'est pas la vôtre et va faire passer votre requête de connexion dans plusieurs points de connexion de la Terre. Donc déjà, ce passage-là, enfin cet aspect technique, nécessite beaucoup de vos données. Et ensuite, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de ces VPN qui ont une politique de données personnelles quasi inexistante. Donc ça veut dire que quand ils vous leur donnez accès à votre téléphone, ils pompent non seulement, enfin ils vous donnent la connexion que vous voulez, mais derrière, en arrière-plan, ils consomment énormément pour pouvoir accéder à vos données personnelles et les partager avec d'autres, avec des tiers. Donc, c'est en partie ce qui peut expliquer le fait que ces VPN sont énormément gourmands. C'est pour ça que nous, Internet sans frontières, on conseille toujours aux utilisateurs de d'abord vérifier que le VPN en question ne demande pas d'accès illimité aux données personnelles, d'une part, et d'autre part, on dirige toujours vers des personnes avec qui nous travaillons, qui ont des communautés techniques avec lesquelles nous travaillons, notamment auprès de l'organisation, une organisation qui s'appelle Access Now, qui travaille beaucoup avec les communautés pour leur donner des bons conseils de connexion. Et sur la connexion sans Internet, sur les réseaux GSM, oui, c'est effectivement, Ariel Kitio a totalement raison, c'est une des voies qui est explorée de plus en plus, et c'est ce qu'on appelle des réseaux, la création de réseaux communautaires. Donc, ce sont des réseaux qui fonctionnent dans des petites...
C'est finalement une forme d'Internet frugal, hein, qui revient sur du réseau GSM.
Oui, frugal, mais qui permet quand même d'accéder à un certain nombre d'informations, notamment Wikipédia.
Je voudrais qu'on revienne quand même sur les taxes. Il y a récemment eu un tollé déclenché au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça se passe ailleurs?
Oui, alors au Bénin, en septembre, en août 2018, le gouvernement a adopté un décret pour taxer, que les opérateurs sortent des forfaits sur lesquels serait taxé l'accès à des réseaux sociaux, donc WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Sauf que l'ajout de cette taxe-là a fait grimper de manière exponentielle, je crois que ça a été multiplié par 10, le coût d'accès des offres, des forfaits Internet normaux, classiques. Et donc, c'était problématique à plusieurs reprises, déjà au niveau du coût que ça faisait augmenter, d'une part. Donc forcément, la plupart des gens ne pouvaient plus se permettre de payer ce prix-là pour pouvoir accéder à ce qui constitue aujourd'hui Internet pour beaucoup de populations en Afrique.
Mobilisation sur les réseaux sociaux, touche pas à mon MO, le gouvernement a reculé.
Touche pas mes mégaoctets, le gouvernement a reculé, mais il est revenu en catimini dernièrement avec un nouveau décret qui, cette fois, taxe carrément totalement l'utilisation d'Internet, donc impose des taxes supplémentaires sur les forfaits Internet. C'est quelque chose que l'on a vu aussi récemment en RDC, puisque juste avant les élections, je crois début décembre 2018, le gouvernement a fait publier un décret qui, pareil, faisait augmenter de manière, je crois, plus de 60% le coût du forfait classique d'Internet. Et c'est une tendance qui est assez préoccupante, parce que sous prétexte de dire...
On a ça dans d'autres pays, compris anglophones.
Bien sûr,
Tanzanie,
il y a l'Ouganda qui a lancé la mode, entre guillemets, des taxes sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui la Zambie qui a une taxe sur les appels, donc les appels passés par WhatsApp ou Viber. Et il y a beaucoup d'autres pays. Alors là, je viens d'entendre sur le Niger qui dit que les réseaux sont taxés. C'est assez intéressant à savoir. Donc, oui,
les gouvernements disent en même temps, il faut bien qu'on lève l'impôt. On est dans des pays où il est difficile de lever l'impôt. Je vous vois lever les yeux au ciel. Mais c'est aussi une réalité. On est quand même dans des pays où il est difficile de lever de l'impôt sur le revenu.
On ne va pas lever l'impôt sur une population qui est déjà énormément taxée. On disait tout à l'heure que l'Internet représente une part non négligeable du revenu des Africains. Je crois qu'il y a des statistiques qui disent que ça représente jusqu'à 10%.
Alors,
en Asie, c'est
2%. Néanmoins, il y a aussi des initiatives qui montrent des efforts certains. Direction le Niger, c'est l'un des pays du continent où l'accès à Internet est le plus faible, on le disait, pays enclavé. À Niamey, la place de la Poste au centre de la capitale a été rebaptisée place Wi-Fi par les habitants. Et depuis un an, la mairie a fait installer un réseau Wi-Fi gratuit. Donc, il ne reste plus qu'à venir avec son téléphone ou son ordinateur portable et de se connecter. Une initiative qui rencontre un succès fou. Reportage d'Alice Milo en compagnie d'Ayouba Sani, responsable d'ONG. Et il est lui-même, bien sûr, adepte de la place Wi-Fi.
Nous sommes à cette place de l'hôtel des postes que généralement les gens appellent place Wi-Fi. C'est une place qui a été aménagée récemment dans le cadre du programme Niamey Niala, Niamey la Coquette. Donc avant, c'était un restaurant qui était là. Donc ils ont dû tout casser. Et puis ils ont mis les gazons, ils ont mis la lumière et tout, ils ont bien décoré, ils ont mis les chaises, tu vois.
Donc ça fait partie de l'embellissement urbain qui a été voulu par le maire. Là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il est à peu près 21h30, 22h là, et il y a, on va dire, une centaine de personnes à la louche qui sont sur la place. Et en fait, la place est quand même assez silencieuse parce qu'en fait, tout le monde est assis avec son écran lumineux devant les yeux et personne ne se parle en fait.
Oui, absolument, parce que ce qui amène les gens, c'est le Wi-Fi gratuit d'abord. Il faut que moi-même je me connecte parce que ça me permet de pouvoir mettre à jour un peu mon portable. Et c'est devenu du coup un lieu d'attraction des jeunes, surtout des quartiers populaires, qui viennent le soir parce que tu n'as pas assez de moyens pour te connecter sur WhatsApp et tu trouves un lieu où le Wi-Fi est gratuit. Donc les gens préfèrent marcher des kilomètres ou prendre un taxi à 200 francs et venir ici naviguer toute la soirée, télécharger des vidéos, tchatcher avec des gens un peu partout dans le monde. Et du coup, les gens restent jusqu'à tard, 4h du matin, compte tenu de l'engouement. Il y a beaucoup maintenant de jeunes qui viennent pour faire du petit commerce. Comme vous voyez, il y a les gens qui font du taxi moto parce que c'est surtout des gens qui viennent de loin. Il y a les vendeurs de thé, il y a même des vendeurs de brochettes, des vendeurs de sandwichs, etc. En tout cas, tout le monde, même les taxis aujourd'hui, tu dis place Wi-Fi, ils comprennent automatiquement que c'est d'ici, quoi.
Là-bas, il y a un jeune homme qui est posé sur sa moto. Je vais peut-être aller lui poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec votre téléphone?
Ben, je connecte avec mes amis pour avoir l'air nouvelle, quoi. Il y a mon frère qui est là-bas en Turquie, il est en train d'étudier.
Ah, il est en Turquie?
Oui, oui. D'accord. Il a un blouse, maintenant ça fait son 5e année, il est là-bas.
Vous venez souvent ici?
Dans la semaine, peut-être 2 ou 3 fois.
Vous mettez combien de temps pour venir?
Des trentaines de minutes comme ça, pour marcher et venir.
30 minutes de marche juste pour le Wi-Fi?
Oui, oui. Parce que si tu n'as pas les moyens de payer crédit pour activer ton forfait, c'est un peu difficile.
Et vous n'avez pas les moyens?
Non, non. Les pompistes, ça n'a pas marché. La boulangerie, ça n'a pas marché, donc je suis en train de chercher encore.
Et vous faites autre chose que le WhatsApp avec votre frère? Vous faites quoi d'autre?
Des fois, je télécharge des vidéos qui me servent dans la vie, quoi. Des choses que je ne connais pas sur la nature. Les animaux, les joueurs, le foot. Comme j'aime le foot, je télécharge.
Vous montrez là les dernières vidéos que vous avez chargées?
Oui, oui. J'ai téléchargé à peu près 5 à 7 vidéos.
Waouh!
À propos des joueurs, le voilà.
Donc là, c'est l'arrivée de Samuel et Georgette Eto'o au mariage de Lionel Messi.
Oui, oui.
Voilà, donc vous regardez des trucs people quand même. Hein.
Oui, oui. Ça me plaît de regarder, quoi.
Bonjour.
Bonjour, ça va?
Vous avez votre téléphone à la main. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire?
Je viendrai souvent ici pour télécharger des livres. Les livres en arabe, quoi.
Les livres en arabe?
Oui, livres d'enseignement islamique comme ça. Ou bien des contes, ou bien des histoires comme ça.
Des romans?
Oui, romans, mais en arabe.
Mais après, vous lisez les livres sur votre téléphone?
Oui. En lisant, on a acquis beaucoup d'expérience.
Et pourquoi vous achetez pas plutôt des livres?
Eh, c'est très cher.
Vous faites quoi, vous, comme travail?
Commerçant. Je gagne pas beaucoup. Et maintenant, avec la Wi-Fi, vraiment, tout est facile.
Vous, Ayouba, vous êtes responsable d'une ONG ici. Vous faites partie de la classe moyenne. Vous gagnez correctement votre vie. Même vous, vous avez besoin de la place Wi-Fi?
Ah oui, nous on se retrouve aussi pour travailler sur un sujet avec des gens ou d'autres associations. Comme ça là, c'est clair, on est au cœur du système, on peut rapidement nous connecter pour télécharger des choses ou bien travailler en synergie ensemble. Mais les étudiants qui viennent, c'est surtout aussi pour mettre à jour leur ordinateur et puis télécharger des cours, des documents. Et la ville de Niamey est en train de vouloir faire d'autres places similaires un peu partout dans la ville.
Julie Owono, vous êtes directrice de l'ONG Internet sans frontières. Il y a d'autres initiatives comme ça sur le continent africain, des places Wi-Fi, vous connaissiez ?
Non, je vous avoue que je suis agréablement surprise de cette initiative. Non, ça fait partie des recommandations que certainement peut-être au Rwanda il doit y avoir. Ah oui, au Rwanda forcément, je crois qu'ils annonçaient dernièrement que même dans les transports publics il y aurait le Wi-Fi. Non, c'est vraiment un choix politique de faire comme ça, d'ouvrir des réseaux Wi-Fi gratuits pour les populations à certains endroits de la ville.
Alors on a eu évidemment beaucoup d'auditeurs qui se plaignaient par leurs messages, par leur coup de téléphone. On a un auditeur content, Bala à Dakar, 22 ans, il est étudiant en première année d'histoire. Il nous dit qu'ici à Dakar, l'internet est abordable. La 4G fonctionne bien. Quand on va dans les villages, la connexion 3G est rapide. 100 francs CFA, on peut se connecter 24 heures. 500 francs pour une semaine. Évidemment, il ne dit pas combien on a en volume. Mais en tout cas, il nous le dit, je suis content. Oui. Aujourd'hui, les bons élèves du continent, hormis l'Afrique du Sud, quels sont-ils ?
Oui, il y a le Sénégal qui est trop mal placé. Mais il y a aussi, évidemment, dans l'océan Indien, Maurice. Et les Seychelles qui sont souvent cités comme les meilleurs élèves sur le continent. Puis il y a aussi en Afrique du Nord, ça dépend d'où. Un pays comme le Maroc, par exemple, globalement, ça se passe mieux que la Tunisie qui est en train de faire énormément d'efforts aussi de ce point de vue-là. Mais les disparités restent quand même, en fait, surtout dans la zone subsaharienne. Ouest et centre, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup à faire. Et c'est pour ça que c'est important que des utilisateurs, comme on l'a vu au Bénin, n'acceptent pas quand il y a des mesures qui sont un
L'Internet
peu
citoyen
injustes.
Se porte plutôt bien, oui. Même si évidemment ses pouvoirs sont limités. Oui. L'avenir d'Internet, c'est à l'heure actuelle la région du monde qui connaît la plus forte croissance de l'Internet. Hein, mais il faut dire aussi qu'elle était partie de très bas. Comment l'Internet va pouvoir réellement se développer, l'accessibilité, puisqu'on le disait pour l'instant, le taux de pénétration, le taux d'accès à Internet, c'est moins du quart de la population africaine. À quelles conditions l'Internet va pouvoir se développer à un prix raisonnable?
Déjà, arrêter de couper Internet, première chose. Deuxième chose, arrêter de taxer inutilement les utilisateurs. Il y a de l'argent ailleurs. On a vu qu'en France, par exemple, le gouvernement a annoncé vouloir taxer les GAFA, donc les grandes entreprises du numérique. Et puis, surtout, favoriser, avoir des politique de construction d'infrastructures et d'inclusion numérique. Donc aller dans les écoles pour former les élèves, pour former les femmes, les publics qui sont aujourd'hui très peu inclus dans la conversation globale en
Afrique. Eh bien, justement, vous ne croyez pas si bien dire, on va y venir aux femmes et aux jeunes. Merci à vous, Julie Owono. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, aujourd'hui par Charlie Dupio. Portrait de Marjane Baker du Liberia. Elle a fondé l'école Meds Africa for D, programme d'initiation à l'informatique et au code pour les filles de 8 à 13 ans. C'est vraiment la nouvelle génération pour les encourager à se lancer dans des filières scientifiques. Écoutez-la.
Mon père travaillait au sein du gouvernement libérien dans les années 70. En 1980, il y a eu un coup d'État au Liberia et le gouvernement d'alors a été renversé. Parmi ceux qui étaient au pouvoir, beaucoup ont été tués. Mon père a fait partie de ceux qui ont pu fuir. Il est parti avec sa famille.
Et vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 14 ans. Ma tante, infirmière, vivait au Texas. Nous sommes allés nous installer chez elle. Je suis restée là-bas, au Texas, pendant presque 27 ans. C'est long. Le Liberia était alors en conflit continu. Aux États-Unis, je suis devenue institutrice. Puis je suis rentrée au pays en 2005. Je suis alors devenue directrice d'une école catholique de Monrovia. Et puis, Ebola est arrivé en 2014. Le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, nous étions tous frappés durement par l'épidémie Ebola. Toutes les institutions, les écoles ont fermé. C'est à ce moment-là que je me suis plongée dans le domaine des sciences et technologies, car il m'est arrivé quelque chose au niveau personnel. Ma belle-sœur a été victime de cette épidémie d'Ebola, elle est décédée. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que plus de 60% des victimes étaient des femmes et des filles. Je crois que si des femmes deviennent actrices du changement et se lancent dans les sciences, elles ne seront pas systématiquement victimes pendant les périodes d'épidémie, par exemple. Elles pourront agir, être proactives, elles pourront même, qui sait, trouver un traitement contre ce fléau ou d'autres. J'ai donc lancé un programme de formation aux sciences et aux technologies depuis Abuja, au Nigeria. J'y ai vécu un an pendant l'essentiel de la crise Ebola de 2014 à 2015. Quand les écoles ont rouvert au Liberia, je suis rentrée en 2016, en janvier. Le premier jour, au retour des vacances, je suis arrivée à la porte du ministère de l'Éducation pour négocier avec eux. Ils nous ont proposé d'intervenir dans cette école de la capitale, Monrovia, où nous avons mis en place des cours du soir et les samedis, des clubs pour les élèves.
Des filles et des garçons.
Des filles et des garçons, oui. Mais nous avons 60% de filles de 8 à 12 ans. Nous les ciblons en priorité. Pour dispenser ces formations, nous faisons appel à des étudiants à l'université que nous rémunérons pour qu'ils les encadrent et les inspirent. Chaque année, nous proposons à plusieurs écoles de jeunes écolières de travailler ensemble pour développer des applications mobiles qui proposent des solutions pratiques. L'année dernière, par exemple, l'une des applis créées servait à tester l'eau pour scanner ces sacs plastiques remplis d'eau qu'on achète et qu'on perce pour boire. Cette appli permet de scanner le sac et de détecter les impuretés dans l'eau pour mesurer sa qualité, savoir si on peut la boire ou non.
Et l'idée, c'est d'encourager en fait ces enfants à plus tard étudier les sciences à l'université, par exemple ?
Absolument. Nous leur demandons au début de chaque programme, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Certains répondent créateur ou footballeur, mais à la fin, après avoir été avec nous pendant un semestre, quand on leur pose la question, ils et elles nous répondent, je veux créer mon appli ou alors devenir médecin. Si on guide les filles d'une façon qui n'est pas menaçante, mais plutôt amusante, on aura plus de femmes dans ces carrières-là liées aux nouvelles technologies. Et cela me tient personnellement à cœur. Moi-même, si j'avais été initiée à ça à l'école primaire, je n'aurais peut-être pas choisi les sciences sociales pour devenir enseignante. Je suis certaine que je me serais lancée dans cette industrie numérique. Tout ce que nous utilisons comme objet est créé et conçu par quelqu'un. Hélas, la plupart de ces ingénieurs sont pour l'instant des hommes.
Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Comment vous définiriez l'Afrique qui gagne ?
Je sens que les sciences et technologies, c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour notre continent. C'est une approche pragmatique, c'est un laboratoire pour nos enfants.
Voilà, portrait de Marjane Baker, libérienne, par Charlie Dupio. Effectivement, cette nouvelle génération qui va arriver sera plus difficile à tromper concernant les problèmes techniques et technologiques de l'Internet, Julio Wono.
Et oui, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir accès à l'information, parce que tous ces jeunes-là ont grandi certainement avec la bande passante et ont eu accès à une ressource inépuisable d'informations qui leur permettent d'évoluer, de s'informer. Donc oui, ça va être beaucoup plus difficile, d'où l'importance pour les gouvernements et les entreprises aussi de repenser leurs relations avec ce public-là.
Et je vous lis un dernier message qui nous parvient. Gabriel à Libreville, je n'ai à l'heure où je vous écris toujours pas récupéré Internet. Non, il a téléphoné. On oublie de parler du contenu d'Internet, nous dit Gabriel. Peu de ressources en langue locale. On subit ce qui vient d'ailleurs. C'est pas qu'on oublie, c'est qu'il faudrait une autre émission pour parler bien sûr du contenu d'Internet sur le continent africain. Moins de 3% du contenu web, je crois, en langue africaine et tout le reste, évidemment, dans les langues considérées comme internationales, avec beaucoup de guillemets. Merci à vous tous. À demain pour une